peut-être
comment... minute d'échange, s'il y a des questions ou des réactions. On va comme ça.
Ça marche ? Non. Ça marche ? Oui. Bonjour, Bernard Garin, je dirige le centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Et je voudrais savoir votre position sur l'indicateur composite qui a été utilisé par l'ARS de Bretagne pour corriger à la marge les dotations des établissements. Je m'explique, la Bretagne fait partie des régions sur qui doit être à 150 euros de DAF par habitant environ. Elle a eu une très faible actualisation de sa dotation de l'ordre de 1%, c'est-à-dire 4 millions sur 400 millions. Et dans ces conditions-là, l'ARS a utilisé un indicateur composite comportant trois compartiments. Un premier compartiment populationnel, un deuxième compartiment lié à la file active et un troisième compartiment lié à l'activité du RIMSI en hospitalisation complète de jour et ambulatoire. Ce qui fait que 6 établissements sur 13 ont vu des actualisations à peu près satisfaisantes de leur DAF annuel, alors que 7 établissements étaient mis au régime sec. Je voudrais savoir votre position sur cette méthode.
Ma position est la même que sur ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que pour moi, les indicateurs populationnels renvoient à la planification, et je pense qu'on va mettre en difficulté des établissements à qui on va diminuer les ressources sur la base d'indicateurs populationnels, parce que en réalité, plus que de baisser une DAF annuellement, il faudrait revoir, restructurer l'offre différemment, c'est-à-dire diminuer le nombre de lits quand c'est le cas. Voilà. Après, sur ce qui est activité et file active, ça me va, parce que ça renvoie à l'efficience. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se travailler infra-annuellement. Mais l'euro habitant, c'est quelque chose qui relève de la planification. Voilà, c'est mon point de vue, hein, perso.
Alors, oui, ce qui peut paraître aussi très important, c'est que les affectations de ce type ou l'application d'indicateurs c'est fait dans une absence de transparence. Donc de toute façon, la première des critiques, c'est comment s'est fait cette utilisation, et si belle et si bien que on a sur le territoire national au moins 4 à 5 méthodes pratiquées par les ARS, ce qui est une absurdité. Enfin bon, de toute façon, on est très clairement à l'ADESME, disons, contre les applications régionales spécifiques comme ça, de ces indicateurs, tout en étant totalement d'accord pour une approche mieux définie des enveloppes et des moyens. Donc, tout à fait d'accord. Alors, je prends l'occasion de dire, soyons très prudents avec nos propres études. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, curieusement, dans certaines régions, nos études ont été, les études ADESME, signées ADESME, ont été utilisées en partie pour réaffecter les moyens. Donc, donc nous sommes en fait presque, on pourrait presque dire que l'ADESME est victime de ses travaux, donc, ou de la qualité de ses travaux en l'occurrence. Bon, donc soyons prudents, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas accepter que soit au niveau national et puis ensuite très largement au niveau régional, des affectations de moyens, des réaffectations de moyens s'effectuent sans transparence, parce que nous le voyons bien, on parle d'une base, ah oui, mais tel endroit est plus cher qu'un autre, donc sans analyser, on vient de le voir, ce que recouvre ce coût, donc on a des éléments lorsque, par exemple, pour les soins sans consentement, l'établissement va s'occuper de l'animal de compagnie, pour la bientraitance du patient qui est en soins sans consentement, j'ai hâte de voir l'indicateur composite qui va me permettre de financer cela. Et pourtant, c'est une mission d'intérêt général, c'est une mission qui démontrera que le soin sans consentement est un soin de bien-traitance ou un soin exigible, exigé, etc. Donc, et dans la bien-traitance du soin, bien, il y a cette action. Donc, alors même que nous n'avons aucune démonstration ou pas toutes les démonstrations sur l'activité, nous faisons des répartitions de re-répartition d'affectation de moyens et dans une opacité qui permet globalement également, alors là, cette année, ça va être encore extraordinairement plus facile, de réaffecter les enveloppes, c'est-à-dire que la DAF qui part du niveau national irrigue les régions déjà. Alors, la DAF nationale, telle qu'elle est votée par les députés, est d'ores et déjà plus ou moins amputée pour certaines régions par rapport à d'autres, Et puis ensuite, une fois au niveau régional, elle circule d'une manière également non claire pour abonder ou ne pas abonder les établissements sous DAF. Et puis au profit par certains canaux, crédits gelés. Donc, là, vous avez appris aujourd'hui que les crédits dégelés sont en volume 180 millions. On peut espérer que la psychiatrie qui va bénéficier effectivement de la réaffectation des crédits bloqués d'une manière prudentielle. Bon, et donc je reviens au niveau régional. Et donc au niveau régional également, il n'y a pas cet abondement normal et naturel de la DAF. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'un des grands dangers, c'est qu'il y a une consommation de la DAF à d'autres objectifs que la psychiatrie et la santé mentale. Il n'y a pas une transparence pour la démonstration de l'usage de la dotation globale. Je l'appelle volontairement dotation globale, puisque cette modalité de financement, fait, c'est 30 ans quand même, c'est bien pour nous en tous les cas. Donc la dotation globale, effectivement, qui est votée au niveau du Parlement, n'est pas affectée et ne relève pas et ne vient pas abonder... effectivement, la discipline. Alors, oui aux sacrifices généraux, on est en période de crise, on n'a pas à se dire qu'on va échapper aux efforts nationaux de financement, mais oui également à la transparence dans une espèce de forme de sanctuarisation des moyens pour la psychiatrie et la santé mentale. Bon, je suis convaincu. Alors, effectivement, comme disait Gaël, et je le remercie pour le travail mené et la qualité des journées de Bordeaux, en l'occurrence, qui nous permettent d'avancer d'une manière extrêmement intéressante. Donc, on s'aperçoit effectivement que nous devons effectivement maintenir, donc oui, à cette sanctuarisation de l'enveloppe, parce que il y a, lorsqu'on fait les répartitions ou les répartitions, les excédentaires ne pourraient plus, enfin, les gens qui seraient réaffectés en moyens se trouveraient en face d'une galette. Trop excessive et peut-être qu'ils seraient incapables, les malheureux, d'utiliser cette enveloppe. Mais j'imagine qu'il y a des projets dans des portefeuilles cachés ou dans des tiroirs qui sont en train de dormir. Et je leur souhaite à ces établissements bénéficiaires ou ces zones bénéficiaires de ressortir vite tous les dossiers. Et puis deuxième point pour les déficitaires, ben voilà, nous sommes donc prêts à ces efforts dans un concept de transparence absolue. En redisant absolue, ça veut dire de haut en bas, quand on a appris qu'il y avait 9 régions déficitaires, enfin 9 régions qui allaient être pénalisées, nous l'avons appris 6 mois plus tard. Et donc la transparence n'existe absolument pas. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions au niveau national. Donc, mais je m'arrête parce que j'ai raison. Voilà. Donc transparence, sanctuarisation globale de la dotation votée et réaffectation des moyens. À du concurrence, de l'équité, de l'égalité, le gaz échéant, mais cette réaffectation dans une transparence absolue par rapport à la discipline psychiatrie et santé mentale.
Alors, juste, sur la transparence, justement, le fait de demander les données arbustes devrait nous permettre d'avoir les transparences de l'échelon national jusqu'à l'établissement bénéficiaire. Et on doit recoller avec la circulaire tarifaire, sinon c'est qu'il y a un loup quelque part.
Oui.
Oui.
Donc je pose ma question, Pascal. Oui. Donc en lien avec ce que je disais tout à l'heure, donc bientôt Strasbourg, création d'un hôpital, pose la première pierre. Donc on a un sujet, et on n'est peut-être pas dans la sanctuarisation budgétaire, mais dans la visibilité budgétaire, avec un enjeu très très fort. Donc baisse substantielle du nombre de lits, 205 lits pour 4 secteurs qui vont être transférés prochainement dans le nouveau bâtiment. 140 lits prochainement au moment de l'ouverture. On baisse de 65 lits pour les 4 secteurs sur 8 secteurs adultes dont nous disposons par ailleurs. Et donc, j'ai les pires difficultés à obtenir un engagement écrit de l'ARS sur le maintien de la dotation. D'un côté, on me dit, on vous a baissé le nombre de lits parce qu'on considère qu'avec 140 lits pour 4 secteurs, à peu près 360 000 habitants concernés, vous devriez pouvoir y arriver pour éviter de rester hospitalo-centré. Mais d'un autre côté, donc, on essaie de développer des alternatives, mais pour l'instant, je n'ai aucun engagement sur le maintien de la dotation. Et donc, il ne faudrait pas qu'en répondant à une lettre de commande de l'ARS de se rapprocher de la population, donc que dans un deuxième temps, on soit déficitaire. Alors voilà donc le genre de problématique auquel on peut être soumis. On va ouvrir dans 2 ans, c'est presque demain. Et donc pour l'instant, je n'ai pas encore d'engagement écrit et formalisé.
Mais c'est vrai que sur le volet populationnel, ce serait bien si on avait des cibles identifiés au plan national avec des fourchettes d'euros habitants, des fourchettes de taux d'équipement pour qu'on ait des points de repère effectivement dans le dialogue de gestion et dans le cas de nos CEPOM, eh bien que les ARS et des guides et qu'on ait un peu de certitude, parce que planifier une offre dans l'incertitude, j'imagine que ça ne doit pas être confortable. Rémi, oui.
Oui. Allô? Non, ça marche. Donc d'abord, te remercier pour la présentation qui est véritablement complémentaire en termes d'approche par rapport à ce qu'on a pu montrer auparavant. Et par rapport à ce que tu disais, donc pour préciser, pour confirmer ce que tu suggérais sur la SAE, il y a une refonte qui a été faite l'année passée, cette année sur le MCO, avec un changement de niveau d'agrégation au niveau finesse géographique. L'année prochaine, donc pour la psychiatrie, on regardera d'abord ce que ça a donné sur la partie MCO et en parallèle, on regardera si c'est transposable ou pas sur la psychiatrie.
Ah oui. Alors là, ce sera une sacrée révolution parce qu'on va passer de 1 à peut-être 30 SAE hein, par établissement. Hein. Parce que des finesses géographiques, il y en a un paquet hein, par ES. Hein.
C'est pas fait.
Ouais. Il faudra recruter. Là.
Oui, Vincent Thomas, CHS Sarthe, à nouveau. Le débat qu'on ébauche tout de suite devra être absolument prolongé au sein de l'ADESM parce que entre notre président qui nous dit attention, transparence au niveau national, mais pas d'initiative régionale, le collègue breton qui rappelle que la Bretagne a agi sans associer l'ADESM, on a à mon avis quand même un rôle à jouer au niveau de nos régions pour intervenir collectivement de manière que lorsqu'une ARS et quelques-unes commencent et d'autres vont suivre, lorsqu'une ARS a la prétention de répartir entre nous les dotations, on soit partie prenante à la discussion. On a sûrement des choses à dire. Et si on attend trop longtemps, on subira des répartitions arbitraires qu'on pourra discuter, mais il sera trop tard. Juste une autre remarque. Attendre, dans certaines situations, c'est... détruire de l'offre de soins par le seul fait de la réduction de nos dotations en ce moment. Quand on est à l'os, on enlève des os, on n'enlève plus de la graisse. Et on n'y reviendra pas. Voilà. Voilà.
Bon, encore une intervention, je crois, Pascal, rapidement.
Ah, oui. Philippe Bagnol, directeur de l'hôpital de Thuire. Thuir étant dans le Languedoc-Roussillon, plus dans le Roussillon que dans le Languedoc, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et donc, concerné, on a eu une discussion qu'on a engagée avec Gilles à Bordeaux à ce sujet, concerné par l'expérimentation Languedoc-Roussillon sur la modulation de la DAF, à laquelle nous avons participé, à laquelle les établissements ont été associés. Alors, je comprends tout à fait, je partage la position de notre président sur la nécessité d'avoir une logique nationale et de fonctionner en totale transparence. Ceci étant ce sur quoi je voudrais insister, c'est si le Languedoc-Roussillon est éligible à une augmentation de 20% de la DAF, oui. C'est simplement parce que le solde migratoire de cette région l'explique. Et que la pire des choses pour les établissements de cette région serait de ne rien faire. Et ça, ce n'est pas acceptable de ne rien faire. Ça ne serait pas acceptable. Quant au crédit qui nous serait affecté, rassurez-vous, je saurai les utiliser.
Pour aller dans ce sens, c'est vrai que j'ai eu Martina Oustin au téléphone, puisque Jean-Luc Lequelec était là hier et qu'on en avait discuté. Elle n'était pas particulièrement fière, surtout vu son métier d'avant, de ce qu'elle avait fait sur la région, mais tout en disant, on aboutissait à la même conclusion, dès lors que le système de financement ne bouge pas à l'échelle nationale, à un moment donné, ce n'est pas scandaleux non plus que les ARS, face à certaines nécessités, c'est d'avancer. C'est là la contradiction.